C'est un signal politique fort qui était attendu par tous ceux qui observent la Chine comme certainement le plus grand pollueur avec les États-Unis en termes de gaz à effet de serre. Ça va dans le sens de l'esprit de cet accord de Paris. Hein. C'est un accord qui est assez peu contraignant quantitativement sur les émissions. Mais c'est un accord qui politiquement engage les États dans une communication transparente sur leurs efforts. Donc la Chine adhère finalement à cette communication transparente qui est, quand on connaît la culture de ce pays, un pas en avant à saluer.
Concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour la Chine ?
Ce traité, c'est pas le traité de Kyoto qui avait engagé certains pays, ceux qui l'avaient ratifié en tout cas, dans des diminutions quantifiées. Là, encore une fois, l'accord de Paris, c'est un peu sur la base de la bonne volonté des États. Et à ce titre, la Chine n'est absolument pas contrainte juridiquement. Mais encore une fois, elle a, je pense, à cœur de montrer qu'elle s'attaque, et elle s'est attaquée depuis déjà plusieurs années, à la décarbonisation partielle de son énergie. Mais comme vous l'avez dit, elle a énormément de réserves de charbon sur son territoire et elle va tirer encore de ce charbon une très grande part de sa production énergétique. Donc les efforts se feront à la marge sur les 30% de production d'énergie non charbonnée.
On a le souvenir de ces manifestations de mécontentement quand le ciel de Pékin notamment était gris et qu'on ne voyait plus rien. Est-ce que la Chine a envie de faire mieux au niveau justement du réchauffement climatique ou pas vraiment ?
Il y a deux sujets qui convergent en fait. Il y a le sujet du climat et donc des émissions de gaz à effet de serre, mais pas seulement les gaz à effet de serre. On sait que les particules fines ont un effet sur le climat. Et puis il y a la question de la qualité de l'air. Et pour ces deux raisons, les gouvernements chinois, les autorités chinoises ont intérêt à faire des efforts. Et donc je suis persuadé que la Chine continuera à faire des efforts dans ce sens-là et que cela bénéficiera autant au climat qu'à la qualité de l'air. Vous parlez des réactions, qu'elles soient dans les rues, sur les blogs, dans les tweets, sur Internet en général. C'est quelque chose à laquelle le gouvernement chinois est très attentif. Donc je maintiens que la Chine va continuer à développer l'éolien, le solaire, parce que économiquement, c'est aussi important pour elle de se rendre la plus autonome possible vis-à-vis de fournisseurs étrangers.
Il y a donc une double préoccupation, d'un côté du bien-être et de l'avenir de sa population, et de l'autre, une préoccupation économique.
Oui, tout à fait. Et répondre à ces deux soucis, c'est aussi répondre à l'échelle internationale à des questions de climat. Donc, pour toutes ces raisons, oui, la Chine ne devrait pas être un mauvais élève. Dans le cadre de l'accord de Paris, encore une fois, c'est une carte qui est relativement confortable à jouer puisqu'il n'y a pas de contraintes ni d'objectifs fermes en termes de diminution, ni de contraintes si jamais ces objectifs n'étaient pas atteints.
Jusqu'à présent, ça n'était que des petits pays ou des États, surtout insulaires, qui avaient signé cet accord de Paris. Là, la Chine, suivie des États-Unis, on est vraiment quand même à un tournant au niveau de la bonne volonté politique, on va dire.
Oui, vous avez tout à fait raison de souligner ça. Je pense que tout ne s'arrête pas à l'accord de Paris, mais que peut-être beaucoup de choses commencent avec cet accord de Paris, justement parce que la bonne volonté est marquée et les gens affichent cette bonne volonté. On peut ricaner en disant que ça n'est que de la bonne volonté, mais je pense que malgré tout, c'est une première étape vers des engagements qui pourraient être pris et de mon point de vue, qui doivent absolument être pris dans les prochaines années, cette fois-là sur des engagements chiffrés et sanctionnables si jamais ils n'étaient pas atteints.
Mais est-ce qu'un pays comme la Chine serait d'accord pour ratifier un tel texte ?
Bon, après, c'est des négociations très très longues et des compromis et la Chine est très très forte en négociation, comme chacun sait. Donc, il y avait eu au préalable de la COP21 à Paris énormément de discussions bilatérales entre les États-Unis et la Chine pour justement qu'ils puissent se préparer à dire oui à un accord sur la bonne volonté, tout en se ménageant des libertés sur la conduite économique de leurs pays respectifs. Il ne faut pas oublier qu'on ne parle pas juste d'un accord juridique, il y a des vrais problèmes climatiques, des problèmes sur des populations, il y a des vrais enjeux économiques aussi. Hein. Le changement climatique, ce n'est pas juste la perturbation, la montée des eaux, c'est des perturbations sur des ressources naturelles, etc. Donc toutes ces questions-là, on ne peut pas les éluder indéfiniment et viendra le moment, j'espère encore une fois le plus tôt possible, où les États passeront à une étape contraignante et à ce moment-là, la Chine négociera le plus intelligemment possible les efforts à fournir en fonction des bénéfices qu'elle pourra en retirer.
Donc de longues négociations à venir, est-ce que vous pensez que États-Unis et Chine peuvent se stimuler réciproquement à être le meilleur élève ou le meilleur investisseur dans les nouvelles technologies qui permettraient de moins polluer et de moins réchauffer la planète ?
Oui, là encore vous avez raison, je pense qu'il y a deux effets à cette relation bilatérale. Il y a effectivement un effet d'émulation parce que on sait aujourd'hui que dans le domaine de la recherche, il n'y a absolument pas de frontières dans le partage des connaissances. Si effectivement des efforts qui sont faits sur le stockage de l'énergie, des choses comme ça pouvaient aboutir à des solutions, elles seraient partagées. Et donc les efforts que ces deux grands pays fournissent aussi dans le domaine de la recherche peuvent bénéficier à eux et à tous ceux qui pourraient s'y intéresser. Donc il y a cet effet positif. Après, il y a un effet de concurrence, évidemment. Ce sont deux super pouvoirs qui sont en concurrence sur plein de domaines et nul doute que aucun des deux ne laissera l'autre s'approprier quelques bonnes initiatives sans essayer de surenchérir derrière. Donc à tout point de vue, je pense que c'est un duel qui est intéressant. Malheureusement, l'Europe n'est pas assez, on entend souvent, l'Europe devrait, autant pour son dynamisme en recherche et développement que politiquement, devrait pouvoir maintenir la dynamique et la mener. Ce n'est pas impossible qu'elle apparaisse lorsque, effectivement, il y aura des négociations un peu plus dures sur des objectifs chiffrés.